Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous de Métropole et vous. Parmi les grands enjeux du 21e siècle, la qualité de l'eau et l'accès à celle-ci viennent certainement dans les tout premiers. C'est bien sûr vrai pour le continent africain et quelques autres régions du monde, mais ça l'est aussi à moyen terme pour le sud de l'Europe et même, on le sait moins, pour le sud de la France. C'est une des conséquences du réchauffement climatique en cours. Qu'en est-il pour Toulouse et les communes de la métropole? Doit-on s'inquiéter pour le niveau et la qualité de l'eau de la Garonne et de ses affluents dans un avenir proche? Peut-on avoir des craintes pour l'alimentation en eau de la métropole à terme? Ce sera l'objet de cette émission autour du thème « Niveau et qualité de l'eau de la Garonne et ses affluents dans la métropole toulousaine, état des lieux et perspectives ». Et il y a un organisme, ou plutôt un établissement public, qui est en charge de la protection de l'eau et des milieux aquatiques en France, c'est l'Agence de l'eau. Les communes de la métropole toulousaine dépendent de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Pour aborder notre sujet du jour, il était donc naturel que nous recevions Patrick Flour, directeur de la délégation du bassin Garonne-Amont. On détaillera tout à l'heure avec lui ce que ça englobe précisément. Patrick Flour, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Métropole et vous. Je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Comment on arrive à un poste comme le vôtre? Quelles études, quel parcours, quelles expériences vous y ont amené?
Bien, bonjour. Alors, d'abord, vous dire que je suis un fonctionnaire de l'État qui est détaché à l'Agence de l'eau depuis une dizaine d'années. Alors, mon parcours, je ne vais pas le présenter en détail, sinon ça prendrait quand même un peu de temps. Mais on va dire qu'il est éclectique, hein, puisque ma formation d'ingénieur, c'est une formation d'ingénieur de métrologie. Donc, je m'occupais au départ de ma carrière d'instrument de mesure, puis après, au cours des différentes opportunités, j'ai pu effectivement avoir des postes dans différents coins de France, puisque pour faire mon parcours géographique, mon itinéraire, en gros, ça fait Paris, Belfort, Rouen, Orléans, Marseille, puis Toulouse, hein, donc à l'Agence de l'eau, avec des activités qui ont donc, je le rappelle, démarré sur de la métrologie, puis ensuite du développement économique, mais aussi de la protection de l'environnement par rapport à l'industrie, puisqu'en fait, je suis originaire des directions de l'industrie, hein, donc analyse d'études de danger, mise en place de plans de protection des populations en cas d'accident industriel. Et puis, je me suis occupé surtout, ça je tiens à le dire, en arrivant à Marseille en 96, de la qualité de l'air en même temps que la loi sur l'air. Et donc, je me suis occupé des sujets actuels dont on parle, c'est-à-dire la pollution des villes, des sites urbains par cette pollution de l'air. Ça m'a permis d'avoir des contacts avec les élus, d'où finalement une transition assez agréable avec l'eau, puisque j'ai beaucoup à faire aux élus, notamment dans ce domaine.
Voilà, et bien du fil de l'eau, on va passer au fil de l'actualité avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine. Que s'est-il passé cette semaine dans la métropole? Métropole et vous, l'actu. C'est la première information de ce flash. Le Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance entre en fonction.
Cette instance remplace le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance créé en 2002. Cette nouvelle appellation prend en compte la dimension métropolitaine acquise depuis le 1er janvier 2014 par l'intercommunalité toulousaine. Le CMSPD est un lieu d'échange et de partage d'expériences qui réunit les principaux acteurs de la sécurité, l'État et ses services compétents en la matière, le procureur de la République, les collectivités territoriales membres, ainsi que des associations œuvrant dans la prévention, l'aide aux victimes, l'action sociale ou encore le logement et les transports. Collectivement, ils élaborent le schéma métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui vise à harmoniser les priorités qui doivent être traitées dans ces domaines et à mutualiser les expériences.
L'hiver approche et Toulouse Métropole poursuit l'installation de son réseau de chaleur.
Un réseau de chaleur, c'est un ensemble d'installations qui produisent et distribuent de la chaleur à partir d'une énergie renouvelable à plusieurs bâtiments pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le principe est simple, brûler les déchets et transporter la chaleur émise vers des bâtiments via un réseau de canalisation. Toulouse Métropole compte étendre ce réseau en installant 36 km de tubes supplémentaires. L'objectif est de connecter l'usine d'incinération d'ordures ménagères du Mirail à la zone pleine campus d'ici 2017. Les avantages de ce dispositif sont multiples avec des prix compétitifs pour l'usager et un prix de vente qui peut être 30% moins cher que la moyenne des réseaux en France. Bonus aussi pour notre bonne vieille terre puisqu'une économie annuelle de 19 000 tonnes de dioxyde de carbone est réalisée.
La métropole toulousaine, toujours à la pointe de l'innovation, trois startups issues des pépinières de Toulouse Métropole, primées lors de la première édition du Technologie Fast 50.
Ces prix récompensent les entreprises les plus innovantes et affichant le plus fort taux de croissance sur les quatre dernières années. Parmi ces trois startups se sont distinguées Sun Water Life. Elle a reçu le prix de la révélation de l'année pour ses systèmes permettant de produire à partir de n'importe quelle source une eau consommable par l'être humain. S'ensuit Wizid avec le troisième prix de la croissance avec plus 808% de progression de son chiffre d'affaires sur 4 ans. Cette plateforme de financement partage son expérience et accélère le développement des jeunes startups qui l'entourent. Enfin, Delair, le leader des drones professionnels, lauréat du Pass French Tech, a reçu le premier prix de la progression avec plus 3033% de croissance de son chiffre d'affaires.
Et on reste dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies. La 6e édition de Futurapolis débute ce vendredi.
Créée en 2012 par l'hebdomadaire Le Point, Futurapolis est un événement majeur dédié à l'innovation et aux nouvelles technologies. Ce sont deux jours de débats, de découvertes et d'activités ludiques sur l'innovation et le high-tech.
Mais dites-moi Corinne, qui peut y participer ?
Eh bien, les chefs d'entreprise, les scientifiques, les personnalités publiques et mordus de technologie, sans oublier bien sûr le grand public. Il suffit juste de s'inscrire avant de s'y rendre. Cette année, Futurapolis investit à nouveau des lieux emblématiques de la Ville Rose, le Quai des Savoirs, le Muséum d'Histoire Naturelle et la Faculté de Médecine au lieu de la culture scientifique, technique et industrielle de Toulouse.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie Métropole et vous avec notre invité du jour, Patrick Flour, directeur de la délégation du bassin Garonne-Amont de l'agence de l'eau Adour-Garonne. L'eau, le sujet de ce numéro, c'est un des grands enjeux de notre siècle. Je le rappelais en début d'émission, nous allons plus modestement nous concentrer sur la qualité de l'eau et ses enjeux pour les cours d'eau qui traversent la métropole toulousaine, la Garonne en premier lieu bien sûr. Comment l'eau et les milieux aquatiques sont-ils protégés? Comment les ressources en eau de notre territoire métropolitain sont-elles administrées, utilisées et par qui? Quelles sont les sources de pollution? Comment lutte-t-on contre elles? Avant d'entrer dans le détail avec vous, Patrick Flour, je voudrais qu'on précise le périmètre que vous gérez avec cette délégation du bassin Garonne-Amont. Qu'est-ce que ça englobe?
Alors, très précisément, comme son nom l'indique, l'amont de la Garonne. Donc nous avons en gros, de façon entière, 8 départements sous notre compétence. Bien sûr la Haute-Garonne, mais aussi le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron et la Lozère. Pour faire plus illustré, je dirais que nous avons grosso modo le Lot, hein, le bassin du Lot, le bassin de l'Aveyron, le bassin du Tarn qui se rejette donc sur la Garonne et naturellement la Garonne amont avec l'Ariège et tous les cours d'eau, les fleuves du Gers.
Alors, les missions, les actions principales de l'agence de l'eau, quelles sont-elles?
Alors, c'est un établissement public de l'État, comme vous l'aviez indiqué. L'agence de l'eau, je dirais qu'elle fonctionne comme tous les établissements avec un certain nombre d'autorités ou d'instances. Je décrirai principalement deux instances. Le comité de bassin, donc à l'échelle du grand bassin d'Haute-Garonne, le grand sud-ouest, hein, qui va de Bordeaux à Toulouse en passant par la Charente, puisque nous avons aussi le fleuve Charente sous notre responsabilité. Et ce comité de bassin a la coutume de l'appeler le Parlement de l'eau. Nous avons des collèges donc d'usagers, des collèges d'industriels, de collectivités territoriales, associations de protection de la nature, et tout ce joli monde, donc 135 membres, définit une politique à l'échelle du grand bassin à Haute-Garonne, et je rajoute la Charente. Et cette politique se traduit dans un document cadre qu'on appelle le SDA. Alors ça fait un peu technocratique, c'est le schéma directeur d'aménagement gestion de l'eau, c'est en fait la feuille de route sur les 6 prochaines années pour tous les acteurs, qu'ils soient collectivités territoriales, industrielles, mais aussi bien sûr les services de l'État.
Donc vous dites pour les 6 années, donc ça veut dire que c'est revu tous les 6 ans?
Tous les 6 ans, effectivement, il y a une mise à plat de l'état des lieux de nos cours d'eau, quelle est leur qualité, où en sommes-nous et quel objectif on se fixe par exemple pour les 6 prochaines années. Pour vous donner quelques chiffres, à l'échelle du grand bassin à Haute-Garonne, je ne parle pas de Toulouse, nous avons un peu plus de 40% de nos cours d'eau qui sont considérés en bon état par rapport à des paramètres définis au niveau européen. Et l'objectif pour 2021, c'est 68% de ces masses d'eau en bon état.
Ce schéma est revu tous les 6 ans avec, en concertation, je suppose,
bien
avec
sûr.
Un grand nombre de partenaires.
Tout à fait.
Vous en avez cité quelques-uns. Quels sont-ils les principaux partenaires et même, j'allais dire, les clients de l'agence de l'eau?
Alors, difficile de les citer tous sans vexer ceux qu'on ne va pas citer. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le monde industriel, qui est un acteur important. On peut penser à EDF, évidemment, pas à travers l'hydroélectricité. On travaille beaucoup, bien sûr, avec les collectivités territoriales, que sont les conseils départementaux, le conseil régional, bien sûr, la métropole et toutes ces collectivités que je viens de citer. Nous avons des accords cadres qui courent jusqu'en 2018, donc pour définir nos priorités communes et nos actions communes. Nous travaillons beaucoup, bien sûr, avec les fédérations de pêche, qui sont des acteurs très importants sur les territoires, mais aussi, je tiens à citer, ce qu'on appelle les syndicats de bassin, les syndicats de rivière, dont le travail, finalement, c'est la reconquête de la qualité de nos cours d'eau dans le cadre de cette directive européenne qu'il faut respecter.
Alors, je suppose aussi que parmi vos clients, il y a ceux qui organisent, qui entretiennent les circuits de distribution de l'eau pour les citoyens. Dans Toulouse Métropole, c'est qui ?
Alors voilà, effectivement, un des usages de l'eau hyper prioritaire, bien évidemment, c'est l'alimentation en eau potable. C'est ce à quoi vous faites allusion. Et sur Toulouse Métropole, nous sommes partenaires de Toulouse Métropole, puisque nous cofinançons tout ce qui est station d'épuration, je parlais d'Inestou, mais aussi unités de traitement de l'eau, hein, par exemple les unités de pêche David, pour citer la plus importante. Et donc, effectivement, ensuite, Toulouse Métropole gère, soit en régie, soit par des contrats de concession, par exemple, actuellement, c'est Veolia, c'est le groupe Veolia, voilà, qui assure cette distribution de l'eau. Alors, pour distinguer un peu le rôle des uns et des autres, l'agence de l'eau va aider les collectivités à protéger la ressource en eau. Par exemple, on va financer des stations d'alerte en amont de ces stations de production d'eau potable. On va financer le traitement de l'eau potable. Par contre, la distribution sera gérée par la métropole à travers le prix de l'eau que paye chaque abonné à ce service.
Alors maintenant, vous avez défini un peu votre périmètre d'action et d'intervention. On a une idée un peu plus précise de l'organisation et des missions de l'agence de l'eau Adour-Garonne, pour le bassin amont de la Garonne en tout cas. On s'est intéressé, nous, aux connaissances, à la connaissance que les citoyens métropolitains ont de l'alimentation en eau des communes de la métropole. On vient déjà un peu d'en parler. On leur a posé d'abord une question toute simple dans le cadre de notre habituel micro-trottoir. On leur a demandé d'où provient l'eau de nos robinets.
La montagne, les Pyrénées, et surtout la Garonne passe pas très loin de Toulouse, au milieu de Toulouse, et il y a des stations de pompage.
De la Garonne ?
Je pense qu'elle provient de sources de nappes phréatiques, et également peut-être de la Garonne après avoir été filtrée.
Savez-vous qui gère l'alimentation en eau des communes de la métropole toulousaine ?
Aujourd'hui, c'est donc une société privée, qui s'appelle Veolia.
C'est le service des eaux, hein. C'est un service, c'est une régie peut-être. Alors soit c'est sur un mode de régie, soit c'est privé.
Êtes-vous attentif à la qualité de l'eau du robinet et à la quantité que vous consommez ?
Ouais, parce que j'ai peur qu'elle soit pas traitée et qu'elle soit pas bonne.
Oui, je ferme les robinets quand il faut fermer les robinets.
Oui, tout à fait. La qualité, je vois si elle est quelque peu trouble, ce qui n'est pas le cas. Donc la qualité, je pense, est excellente. Hein. Ils font des recherches bactériologiques également pour savoir s'il n'y a pas de dérivés nitrés, entre autres choses.
Le niveau moyen de la Garonne baisse d'année en année, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Craignez-vous pour l'alimentation en eau de la métropole à l'avenir ?
Créer des bassins comme ils ont déjà fait à l'extérieur pour pouvoir alimenter la Garonne, mais ceux qui donnent sur les bassins, ils vont pas être contents.
Il y a beaucoup de craintes effectivement qui sont à prendre en considération, mais c'est très aléatoire, c'est-à-dire que tout est brutal aujourd'hui, il peut y avoir un manque d'eau conséquent qui dure plusieurs semaines, mais il peut y avoir aussi excès d'eau, il n'y a pas de régularité et ça est lié malheureusement à un bouleversement climatique qui, quoi qu'on en dise, est vraiment très présent.
Il faut faire attention, sinon on n'aura plus assez d'eau et il va y avoir des problèmes. Il faut que chacun y mette du sien, fasse attention, économise l'eau au maximum, quand il fait la vaisselle, quand il va se doucher, toutes ces petites choses quotidiennes.
Voilà, vous avez vu, il y a des réactions qui montrent que les gens sont quand même, me semble-t-il, impliqués et intéressés par cette problématique de l'eau.
Tout à fait. Alors, ils sont impliqués et, bonne surprise, ils connaissent bien le sujet. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de réponses quant à l'origine de l'eau. Ils ont parlé de la Garonne. Effectivement, près de 80% de l'eau qui est utilisée pour l'eau potable au niveau de la métropole provient de la Garonne, je dirais de la Garonne et l'Ariège. Bon, l'eau n'a pas d'odeur, elle se mélange allègrement à la confluence. Mais effectivement, donc c'est bien une production de la Garonne avec un prélèvement en Garonne. Alors on rassure la personne qui s'interrogeait sur le traitement de l'eau. Ce sont des traitements franchement performants et haut de gamme qui sont pratiqués sur Toulouse. Je dirais simplement, par exemple, le système de traitement bactérien via l'ozone, par exemple, qui est un système très moderne et qui a l'avantage d'enlever le goût de chlore qu'on a souvent dans certaines communes, dans certaines villes. On boit de l'eau potable, elle est potable, mais on a la désagréable surprise d'avoir un goût de chlore dans la bouche, ce qui n'est pas le cas à Toulouse, puisqu'on utilise l'ozone. Donc, voyez, je pense que de ce côté-là, les citoyens peuvent être rassurés. Après, de vraies questions sont posées, effectivement. On voit la Garonne, même actuellement, très basse. place. Alors, dans le cas du micro-trottoir, on a déjà une partie des réponses. Par exemple, une certaine personne a dit que des fois le niveau est très bas et très vite, ça remonte. C'est vrai, la Garonne, nous sommes à l'amont de la Garonne. Donc, les Pyrénées ne sont pas si loin que ça. Il y a un petit aspect un peu torrentiel hein, de ce grand fleuve.
Il y a de la pente encore. Hein, voilà.
Il y a de la pente, ce n'est pas le fleuve Loire. Hein. Donc, si vous voulez, effectivement, ça peut changer assez vite. Et maintenant, quant à l'inquiétude légitime hein, que peuvent avoir certains citoyens quant à la pérennité hein, de la distribution de l'eau potable au niveau de Toulouse, aujourd'hui, on peut clairement les rassurer. Hein. Je dirais que simplement que l'eau utilisée pour l'alimentation l'eau potable de la métropole représente 3 à 4% du débit de la Garonne. Oui. Donc, on a quand même une marge. Et je dirais que pour rassurer encore plus, parmi les usages qu'on fait de l'eau potable est la priorité des priorités. Donc voilà, on ne devrait pas manquer d'eau pour l'eau potable. Ça ne veut pas dire qu'on n'en manquera pas pour d'autres usages.
Justement, j'allais y venir. Pour les agriculteurs, en revanche, qu'est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir ?
Bon, alors les agriculteurs connaissent des périodes difficiles. Alors, chaque année a sa spécificité. Mais effectivement, si on se met en perspective, on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Vous l'avez évoqué dans votre introduction. On sait que, eh bien, d'ici 2050, il y aurait 2 degrés de plus en température en moyenne. Ça peut être très agréable pour aller se promener. Mais ces 2 degrés auront un impact très fort au niveau de ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'avec cette hausse de température, les plantes, pour se maintenir en vie, vont pomper beaucoup plus d'eau. Globalement, il y aura toujours autant d'eau, mais il y aura beaucoup moins d'eau disponible. Disponible pourquoi ? Pour les usages, quels sont-ils ? L'eau potable en priorité, la baignade, etc. Mais bien sûr, les usages économiques, industriels et agriculteurs. Et effectivement, en période d'étiage, en période sèche, c'est là où il y a les besoins d'irrigation, où c'est là les questions se posent. Et c'est là les questions que pose l'étude prospective qu'a menée l'agence de l'eau, qui s'appelle donc Garonne 2050, en essayant de mettre finalement les décideurs devant leurs responsabilités. Est-ce qu'en 2050, on maintient les mêmes usages qu'aujourd'hui ? Eau potable, économie, irrigation, même activité, auquel cas il va falloir quand même trancher, c'est le milieu qui risque d'en pâtir. Est-ce qu'on décide collectivement de vivre avec des débits de cours d'eau plus faibles, auquel cas c'est de l'adaptation, on acceptera que tout le monde fasse un effort, donc y compris la nature qui souffrira un peu. Donc là, c'est des grands choix qu'il faut avoir, parce que si on décide par exemple de créer, si c'est la solution, des retenues d'eau en amont, pour soutenir l'étiage de cette Garonne, moyennant bien évidemment tous les efforts qu'on peut imaginer au niveau industriel, agriculteur et au niveau du citoyen en termes d'économie d'eau. Ce sont des décisions, si on la prenait maintenant, je pense qu'elles seraient réalisées dans les 15 ou 20 ans. Donc c'est maintenant oui. qu'effectivement les décideurs devront se positionner sur des choix structurels.
Là, ce sont des décisions vraiment politiques. Là,
tout à fait, tout à fait.
Alors j'en reviens quand même à ce qui est le sujet principal et votre mission principale à l'agence de l'eau, la qualité de l'eau. La Garonne à Toulouse, qu'est-ce qu'il en est ? Comment on se positionne pour un fleuve comme celui-ci traversant une métropole telle que Toulouse ?
Bien, alors l'eau, on va dire, ça part de l'amont à l'aval, ça coule de source. La qualité de l'eau, la qualité des cours d'eau est très bonne en général, effectivement, à l'amont. Il n'y a pas ce qu'on appelle la pression anthropique, les activités humaines. Et dès qu'on commence à aller vers l'aval et on traverse une grande collectivité comme celle de la métropole, bien évidemment, il y a un impact. Ceci étant, l'impact est tout à fait relatif. Je dirais que la qualité de l'eau en Garonne est considérée comme une qualité moyenne. On l'espère bonne d'ici 2027, donc on se donne quand même une échéance pour réagir, mais il faut bien comprendre l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire qu'on imagine, par exemple, toutes les micropollutions, les pollutions diffuses à travers une grande métropole qu'on imagine, malgré des outils de traitement comme Genesto, etc., qui font leur office et qui le font bien, il est évident qu'il est difficile d'avoir zéro rejet, je dirais, dans une grande métropole comme celle-ci. Donc je dirais que la situation est correcte et on espère bien sûr l'améliorer d'ici 2027.
Qu'est-ce qui fait que cette situation est seulement correcte et pas bonne ? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau quand vous l'analysez ? En amont, en aval d'ailleurs, est-ce qu'il y a une grosse différence ?
Alors, hein, qu'est-ce qui déclasse effectivement la Garonne à la traversée de Toulouse ? Alors, on peut parler de paramètres, ce sont des paramètres qui sont actés à travers une directive cadre, hein, parce qu'on travaille dans un cadre européen, dans tout ça, il y a des problèmes d'azote, un peu trop d'azote, alors effectivement l'activité agricole peut être montrée du doigt, il y a des problèmes de phosphore, des problèmes de matière organique, d'oxygénation du cours d'eau. On peut penser aussi que en amont de la Garonne, il y a pas mal de seuils qui barrent ce cours d'eau, hein, donc évidemment, il y a un ralentissement dynamique qui peut jouer sur la température, même si la température n'est pas une préoccupation à Toulouse. Donc tout ceci, mis bout à bout, font que la qualité n'est pas bonne. Et donc on travaille tous les jours avec des partenaires, les syndicats de rivières, etc., les industriels, les collectivités territoriales, pour faire en sorte que petit à petit, d'ici 2027, on obtienne enfin le bon état.
Alors je suppose que vous travaillez entre autres avec les fédérations de pêche et donc avec la fédération de pêche de la Haute-Garonne. Et j'ai vu que dans vos missions, il y a la qualité de l'eau, mais il y a aussi la protection des milieux aquatiques, qui est aussi une des missions des fédérations de pêche, on ne le sait pas assez ça. Qu'est-ce que vous faites? En quoi vous intervenez sur la protection?
Si vous voulez, on va dire qu'il y a deux types d'actions. Il y a l'action prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a la reconquête des cours d'eau dont la qualité est dégradée, puisqu'on a cet objectif, 68% en 2021, donc là c'est beaucoup plus proche. Et donc là, c'est vraiment la priorité, c'est là que nos taux d'intervention qui accompagnent les acteurs sont les plus importants. Il n'empêche qu'il faut aussi viser un autre objectif qui s'appelle la non-dégradation. C'est-à-dire qu'effectivement, et là, lorsqu'on finance les fédérations de pêche et d'autres acteurs, ne serait-ce que même dans la sensibilisation du public à l'intérêt d'avoir des cours d'eau de bonne qualité, je veux dire que là, on joue la carte du maintien du bon état. Là où la qualité est bonne, il faut faire en sorte qu'elle reste bonne. Et parfois, c'est un véritable enjeu.
Alors, les partenaires dont vous en avez parlé, EDF, notamment pour les lâchers des barrages qui sont en amont de Toulouse. Vous allez peut-être pouvoir les citer, lesquels sont concernés. Comment ça fonctionne? Parce que je suppose qu'il y a quand même des intérêts divergents parfois.
Oui, alors il y a des conventions avec les grands hydroélectriciens, donc DDF, les grands barrages pyrénéens, qui consistent à négocier des volumes d'eau qui doivent être lâchés en période d'étiage. Bien évidemment, tout ceci a un coût, puisque EDF, l'objet même d'une grande centrale hydroélectrique, ce n'est pas de soutenir la Garonne.
C'est de produire de l'électricité.
De l'énergie verte. Oui. Je sais que c'est important dans le contexte que nous vivons. Donc effectivement, il y a une discussion pour que EDF, même si, on va dire, le tarif de l'électricité n'est pas forcément optimisé, il y a une convention qui pousse EDF, finalement, à lâcher de l'eau et à produire de l'électricité dans des conditions, entre guillemets, financières pas optimum. Et donc, ce décalage entre l'optimum du mètre cube produit, enfin du mégawatt produit, et je dirais le fait de produire de l'électricité lorsqu'on en a moins besoin, eh bien cet écart de prix est payé par, je dirais, nous tous à travers des redevances que nous reversons sur EDF. Voilà.
Dans la qualité de l'eau, il y a quelque chose, je crois, on n'a peut-être pas assez parlé, là, il y a aussi la température de l'eau. Des étiages de plus en plus bas l'été, à mon avis, font en sorte que cette température augmente. On en est où là-dessus? Est-ce que ça se dégrade d'année en année? Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire?
C'est difficile de répondre parce qu'effectivement, même si on sait qu'on va avoir ces 2 degrés supplémentaires, donc grosso modo, on peut s'attendre à une augmentation de la température, ça va être très erratique. Il y aura encore des années où il y aura trop d'eau dans la Garonne, il y aura encore des inondations, il y aura un aspect torrentiel, il y aura des dégâts. Et on dira comment, je ne comprends pas, changement climatique, et pourtant on a trop d'eau cette année. C'est bien sur un scénario tendanciel dont on doit parler. Et sur le scénario tendanciel, effectivement, on peut s'attendre à une augmentation de la température de l'air et donc de l'eau. Maintenant, on sait que c'est une augmentation de la température peut avoir un impact, même limité, peut avoir un impact très important sur la vie piscicole. 1 degré de plus et la reproduction des truites est remise en cause, par exemple.
Oui.
Les truites qui ont besoin d'une eau particulièrement froide.
Oui. Les sources de pollution, il y en a une à laquelle on ne pense pas toujours, il faut être un peu concerné. C'est celle, il y en a deux, je pense aux métaux lourds et à la pollution médicamenteuse dont on parle de plus en plus depuis quelques années. Alors là aussi, où on en est? Quels sont les résultats des études que vous faites?
Alors, au niveau des métaux lourds, je dirais que la situation n'est pas préoccupante sur l'agglomération toulousaine, mais il est évident que, l'industrie ou le passé industriel fait que dans les sédiments, c'est ce qu'on cherche, si on cherche des métaux lourds, on trouvera des métaux lourds, puisqu'ils ont la fâcheuse idée d'être bioaccumulables, donc au niveau des êtres vivants, et surtout persistants. C'est-à-dire, dans les décennies à venir, les métaux lourds qui se trouvent dans les sédiments resteront. Ceci étant, il n'y a pas spécialement d'inquiétude, puisque, je répète, la Garonne, lorsqu'elle traverse la métropole, n'est pas déclassée au titre de ses paramètres métalliques. Bon, donc c'est une préoccupation. Simplement un exemple. Il y a eu une très grande préoccupation dans le Lot avec le cadmium qui allait jusqu'à polluer les huîtres marines au Léron. Il y a eu des travaux très lourds financés par l'agence de l'eau au niveau de l'industriel qui était concerné, donc en amont du Lot. Et maintenant, les huîtres marines au Léron sont tout à fait exemplaires au niveau de ces paramètres. Pour vous dire qu'il faut avoir des actions lorsque l'impact est avéré, pas seulement l'impact économique, mais aussi l'impact sanitaire ou environnemental. Aujourd'hui, oui, il peut y avoir des métaux lourds dans les sédiments de la Garonne. Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'impact et d'inquiétude à avoir sur le plan sanitaire. Voilà. Alors, en ce qui concerne les médicaments, la question est un peu la même. On sait d'où viennent les médicaments. Ce sont nous, finalement, qui faisons en sorte que, involontairement, que les médicaments se retrouvent dans la Garonne. On a dit que la Garonne servait effectivement pour, par la suite à l'usage eau potable. Et il y a eu des études, je pense surtout des études sur Bordeaux, mais il y en a peut-être eu aussi sur Toulouse. Je sais qu'il y a même des études en cours sur Toulouse, sur la métropole, et on arrive à trouver des traces, bien des traces de médicaments au niveau de l'eau du robinet. Alors ça peut être très inquiétant. Quand on compare la concentration liée à ces traces et le simple cachet que nous prenons pour nous soigner, donc pour qu'on aille mieux, les rapports étant de 1 à 1000, je veux dire qu'il n'y a pas d'inquiétude pour un produit donné de boire de l'eau avec quelques traces. La question qui reste posée et qui est en cours d'analyse, c'est effectivement le mélange de médicaments, le fameux effet cocktail. Est-ce que finalement il décuple les effets néfastes ? Il ne faut pas inquiéter les citoyens inutilement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte. Mais la question est posée, elle est en cours d'étude.
Bon, on terminera sur ces propos relativement rassurants tout de même. Merci beaucoup d'avoir été notre guide au fil de l'eau et de cette émission, Patrick Flour. Il est important que chacun soit informé de l'état de nos cours d'eau et conscient de la nécessité impérative d'assurer leur protection. L'eau, sa qualité et sa quantité, c'est vraiment un des enjeux cruciaux de ce siècle pour nos sociétés et pour l'humanité tout entière. On ne répétera jamais assez. Ayons toujours ça à l'esprit. Et si vous voulez vous renseigner sur l'Agence de l'eau et les actions qu'elle mène, n'hésitez pas à consulter son site internet www.eau-adour-garonne.fr. Je signale également qu'il existe une application smartphone Qualité Rivière qui permet de voir l'état de la qualité de l'eau dans nos cours d'eau. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.